Parce que cette loi enseignait la différence entre le bien et le mal. Elle enseignait la nécessité du sacrifice, la nécessité que quelqu'un d'autre devait payer à ma place pour les péchés. Et le sacrifice avait cette fonction-là. Mais on sait aussi que cette loi était insuffisante, qu'elle soulignait combien nous étions incapables de respecter les exigences de Dieu jusqu'au bout. Et cette loi révélait notre péché, révélait notre mort spirituelle. Et Paul nous dit que cette loi était une ombre. Une ombre de ce qui était à venir, une ombre de la réalité. Et la réalité que la loi annonçait, cette réalité, c'était le Christ. Le Christ en qui la loi est accomplie, en qui la distinction entre le bien et le mal devient une évidence. Christ en qui je peux dire à quel monde j'appartiens. Christ qui me fait rentrer dans une nouvelle alliance, une alliance où je deviens étranger au péché, une alliance dans laquelle je m'identifie à Dieu, une alliance qui me fait devenir un enfant de Dieu. Les deuxièmes règles qui étaient proposées aux chrétiens de Colosse, donc nous parlent de règles d'humiliation, d'ascèse, de mysticisme aussi, où on recherche des visions, où on recherche un culte des anges, où on est, comme Daniel le disait, où on propose un évangile plus, avec des règles supplémentaires, avec une façon de croire que on pratique des choses qui me font rentrer dans une élite spirituelle. Ces règles-là nous concernent plus vraiment. On n'a pas un enseignement sur l'ascèse, je pense, dans l'Église. Mais ces règles-là, les règles qu'on nous propose changent, mais l'aspiration qui est derrière ces règles, elle, reste la même, parce que ce qui nous est proposé à travers cette discipline, ces efforts constants, ce qui nous est proposé, c'est, et Paul le dit à deux reprises dans ce passage, c'est une aspiration toute humaine. C'est une aspiration à devenir grand. Une aspiration à construire, à mériter son salut, mais à devenir grand à ses propres yeux. Une aspiration qui nous pousse à l'orgueil, et c'est ce que Paul nous dit là. Ceux qui rentrent dans sur ce chemin-là nourrissent leur orgueil. Un orgueil qui peut être spirituel, un orgueil qui peut être purement humain, de ce que j'ai réussi à accomplir par moi-même. Cette aspiration, elle est séparée de Dieu. Elle vient d'un besoin qui est fondamental dans chacun d'entre nous, c'est que nous recherchons à avoir de la valeur. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de croire, de penser que nous avons de la valeur. Et nous recherchons cela. Mais si nous le recherchons sans Dieu, si nous recherchons à acquérir cette valeur sans Dieu, alors nous construisons notre propre orgueil, nous nous mettons à une place qui revient à Dieu, nous nous mettons sur le trône. Nous devenons notre propre roi et nous cherchons à accomplir tout ce qui peut nous convaincre que nous avons effectivement de la valeur. Et Paul nous dit, non, ne choisissez pas ce chemin-là. Rejetez ce mécanisme-là, ce mécanisme qui vous rend vulnérable au jugement, qui vous rend vulnérable à la culpabilité, parce que sur ce chemin-là, on n'atteint jamais, on n'est jamais assez, on n'est jamais, on est toujours en deçà de ce qu'on espère, et alors on se sent misérable, et on cherche toujours à accomplir davantage pour combler ce besoin. Et Paul nous donne une solution à cette fuite en avant. Une solution qui commence par quelque chose d'un peu brutal. Mais Paul nous dit, vous êtes mort. En Christ, vous êtes mort à tout cela. Vous avez été enseveli avec Christ par le baptême. Au moment où vous avez accepté le Christ, vous avez accepté de renoncer à cette auto-justification. Vous avez accepté de renoncer à devenir votre propre Dieu. Vous avez accepté de renoncer à votre propre grandeur. Tout cela, je l'ai abandonné, j'y ai renoncé. Tout cela a été crucifié avec le Christ à la croix. Je ne suis plus sensible à la condamnation et au jugement. Et pourquoi ? Parce que ma condamnation, elle a déjà été prononcée. La sentence, elle a déjà été appliquée. La mort est déjà passée. Christ a subi la condamnation à ma place. Tout cela est mort avec lui. Tout ce qui faisait que je voulais devenir grand, tout ce qui faisait que je voulais devenir mon propre Dieu, tout cela est mort à la croix avec le Christ. Et maintenant, je ne peux plus être condamné. Je l'ai déjà été et la sentence est déjà tombée. Mon besoin de valeur, il est toujours là. Dieu m'a dépouillé de tout ce qui me rattachait au monde, de tout ce qui me rattachait à ma propre gloire. De tout cela, j'en ai été dépouillé. Dieu m'a mis à nu. Mais Dieu ne m'a pas laissé nu, parce que Dieu m'a revêtu. Il m'a revêtu non pas de ma propre gloire, mais il m'a revêtu de sa gloire à lui. C'est de la gloire de Dieu que je tire dorénavant ma valeur. C'est parce que lui accomplit en moi toutes les œuvres qu'il a préparées pour moi. Dieu manifeste à travers moi sa gloire. Il a fait de moi son enfant précieux et racheté. Et ma valeur, elle est là. Et je n'ai plus rien à faire pour qu'elle existe. Je n'ai qu'à la recevoir et à la reconnaître. Ne vous laissez pas juger. Mais ne pas se laisser juger, comme je l'ai dit, c'est recevoir la nature de Christ. Ne pas se laisser juger, ça me permet aussi de recevoir de faire tous mes efforts pour accomplir ce que Dieu a fait de moi. Et Paul le redit souvent dans ses épîtres. Faites tous vos efforts pour faire grandir le fruit de l'Esprit en vous, l'amour, la douceur, la persévérance, la patience. Parce que ma propre valeur est établie, alors je peux faire tous les efforts pour que cette valeur soit mise en action, mise en œuvre. Parce que je n'ai plus peur du jugement, alors je peux recevoir aussi les critiques. Mon identité, elle est en ce que le Christ m'a donné, ce que je peux accomplir maintenant n'ajoute rien à ça. Je suis un serviteur sans mérite particulier. Mes actions sont imparfaites. Parfois, on a besoin d'entendre qu'on a besoin de corriger quelque chose, on a besoin d'améliorer quelque chose. Parce que je n'ai plus peur du jugement, je peux recevoir des critiques, des conseils, sans me sentir remis en question dans ce que je suis. Et quand on parle de critiques, et parfois les critiques sont nécessaires à entendre, parfois elles sont aussi nécessaires à donner. Mais en lisant ce passage, où Paul nous dit « ne vous laissez pas juger », l'autre côté de la pièce de cette exhortation, c'est « eh bien, ne jugez pas ». Et il y a aussi beaucoup de passages où nous sommes encouragés à ne pas juger. Daniel en a cité... A lu déjà, je crois, au moins deux fois dans les passages qui ont précédé, mais je vais quand même le relire, ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 4. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Ne jugez pas avant le temps. Dans Romains, toujours sur cette notion du jugement, Paul va dire ne soyez pas une occasion de chute pour les autres en les jugeant sur ce qu'ils mangent ou ce qu'ils ne mangent pas, sur ces choses qui sont sans importance. Cette semaine, le Seigneur m'a enseigné sur quelque chose. Je pensais être quelqu'un qui ne juge pas les autres. Et le Seigneur m'a montré que ne pas juger, c'est bien, mais encourager, c'est mieux. Dans ce chapitre 2 des Colossiens, Paul nous parle de construire. Il nous dit « Enracinez-vous en Christ, construisez toute votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous enseigne. » Construire, construire en Christ. Construire en Christ et remercier Dieu. Remercier Dieu tout le temps. On a besoin d'être encouragé, on a besoin d'encourager les autres et de les encourager de la bonne façon. Je pense que Dieu n'attend pas de nous qu'on fasse des compliments. Alors faire des compliments, je pense que c'est une bonne chose, ça fait plaisir, ça réconforte. Mais... encourager, c'est encourager en Christ. C'est le même principe que celui qui fait qu'on ne se laisse pas juger. encourager, c'est montrer combien Dieu agit en nous, combien il agit à travers vous. La gloire lui revient. Mais c'est important de montrer la puissance de Dieu, son amour, et comment cet amour se manifeste à travers vous. Ce que Dieu accomplit à travers vous. Parce que la gloire lui revient, mais votre valeur est reconnue. Votre valeur d'enfant bien-aimé de Dieu, votre valeur d'enfant précieux à ses yeux, et bien cette valeur est reconnue. Et en pensant aux encouragements que Dieu attend de nous, j'ai repensé à la façon dont le Christ a pu encourager. J'ai pensé à deux exemples que j'ai souvent dans le cœur. Le premier, c'était la façon dont il a encouragé la femme adultère. Quand tous les hommes qui voulaient la condamner sont partis, Jésus était seul avec elle et il lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et il lui dit, va et ne pêche plus. Il a pris là où elle en était, il lui a donné une direction, il lui a donné un espoir. On est souvent confronté, on côtoie bien sûr des personnes qui sont non chrétiennes, qui appartiennent pas à Dieu, et moi je me demande comment est-ce que je peux, comment je peux les encourager? Comment je ne peux pas leur parler de ce que Dieu accomplit en eux? Dieu ne le connaissent pas. Mais on voit comment Jésus, avec quelqu'un qui était loin de Dieu, comment Jésus a réussi à trouver le moyen pour lui donner un encouragement qui va pouvoir lui permettre de marcher et de marcher vers Dieu. À un autre niveau, Jésus a aussi encouragé Pierre. Vous connaissez tous ce passage où après la résurrection, Jésus va parler à Pierre et il va lui poser trois fois la question « M'aimes-tu ?» Et il va conclure en disant « nourris mes brebis, occupe-toi de mon troupeau. » On sait par quoi Pierre est passé. Et la façon dont Jésus va l'encourager pour l'aider à surmonter sa culpabilité, comment il va mettre en avant, finalement, l'amour que Jésus lui-même a construit dans son cœur. Comment il va l'aider à mettre en œuvre tout ce que Jésus lui-même lui avait donné, à le mettre en œuvre pour les autres. Alors Jésus voit dans les cœurs et s'est touché d'une façon qui est extraordinaire et merveilleuse. Mais ce chemin-là, je pense que nous avons aussi à le prendre et à trouver le moyen d'encourager ceux qui sont autour de nous à voir ce que Dieu fait à travers eux, à les encourager, à laisser le Christ être une source d'eau vive à travers eux. Je l'ai dit, tout ça est aussi en parallèle avec les remerciements. Et remercier Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il a fait de vous. Peut-être la première étape pour être encouragé en Christ, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il a fait de vous. Parce qu'il a, il a agi dans votre vie. Il a agi à travers vous. Et c'est probablement vous qui êtes le mieux placé pour voir cela. Daniel a parlé des accusations du diable qui veut nous convaincre que nous ne valons rien. Souvent, le juge le plus sévère, c'est nous-mêmes. Parce que nous voyons nos échecs, nous voyons nos faiblesses, nos péchés, toutes les fois où on a lamentablement raté ce qui était bon. Et là, Paul nous dit, même moi, je ne me juge pas. Le Seigneur me jugera. Mais moi, je peux dire merci parce que Dieu a accompli des grandes choses en moi. Il a agi à travers moi, dans ma famille, dans l'Église. Et je peux déjà commencer par faire ça, par remercier Dieu pour ce qu'il a accompli. Remercier Dieu aussi pour ce qu'il a accompli dans mes frères. Ça demande un regard un peu volontaire. On voit souvent les défauts, bien sûr, mais ça demande un regard un peu éclairé par le Seigneur pour que on sache distinguer tout ce que Dieu a accompli dans la vie de mon frère. Peut-être que lui n'arrive pas à le voir. Peut-être que c'est à moi de pouvoir déjà remercier Dieu pour ça. Ça me permettra déjà d'ouvrir mon regard et puis ensuite peut-être d'aller voir mon frère pour lui dire « Regarde ce que le Seigneur a accompli à travers toi. » Le chemin de l'auto-justification, le chemin où c'est moi qui construis ma propre valeur, en plus de me rendre manipulable par les autres, de me rendre manipulable par les faux docteurs, par tous les maîtres à penser, et parfois dans les églises, par les gens qui aiment culpabiliser, enfoncer. Donc en plus de me rendre vulnérable à cette manipulation-là, ça me coupe de Christ. Et c'est ce que Paul nous dit ici, hein. Ceux qui choisissent ce chemin-là, eh bien ils refusent de reconnaître le Christ comme leur Seigneur et comme leur tête. Donc ce chemin-là me coupe du Christ, mais ça me coupe aussi des autres. C'est un chemin qu'on choisit tout seul. Ce chemin où je suis grand à mes propres yeux, où je construis mon salut, c'est un chemin qu'on parcourt tout seul. Mais Christ, lui, nous conduit sur un autre chemin, il nous conduit sur un chemin où il nous propose la communion. La communion d'un corps, un corps solide, un corps articulé. C'est de ce... Donc, le texte nous dit, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance, comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Ce corps, c'est l'Église. Le Christ nous conduit à servir dans l'Église, à faire partie de ce corps, un corps où justement ma valeur est reconnue, où ma valeur est mise en avant parce que c'est la gloire de Dieu qui est proclamée. Alors, je vous encourage ce matin à remercier Dieu continuellement pour ce qu'il a fait en vous, pour ce qu'il a fait dans vos frères, à vous encourager à manifester sa gloire, à vous laisser utiliser par le Christ. Je vous encourage à aller voir vos frères pour leur dire que ce que Dieu fait en eux est magnifique. Que ça a une valeur éternelle. Alors, le Seigneur m'a encouragé cette semaine avec ça. Dans ma famille, il m'a montré que moi aussi, je devais décider d'être un encouragement pour ma femme, pour mes enfants, un encouragement pour mes frères et sœurs. C'est un choix, c'est un effort qui n'est pas forcément évident. On a besoin d'être conduit, je pense, par Dieu pour pouvoir voir comment il agit. Et je vous encourage à faire cet effort, à le faire aussi dans l'Église. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine.
Merci Manu pour rappeler ces vérités tellement importantes. Hein. Vous verrez que cette épître, elle est incroyable. Dans le chapitre 3, il est question de la famille. Je ne sais pas sur qui ça va tomber.